Chapitre 1. Un peuple peut-il exister sans religion et sans culte? Je viens de dire dans quel but Bayle exposa, à la fin du XVIIe siècle, son célèbre paradoxe d'un peuple athée. Il fallait jeter de l'eau sur cette rage de persécution qui avait ensanglanté l'Europe pendant 200 ans et qui régnait encore aussi violente et aussi absurde chez les protestants que chez les catholiques. Bayle rendit donc un grand service en poussant, comme il le fit, à l'indifférence religieuse et en accoutumant les esprits à considérer l'athéisme sans aucune horreur. Mais son paradoxe n'a pas pour cela plus de vérité ni d'importance qu'il ne lui en donnait lui-même. Au fond, Bayle n'a jamais soutenu que l'athéisme fût l'état normal d'une nation. Loin de là, il répète plusieurs fois que ce qui arriverait d'un tel peuple est un grand problème. Si l'on regarde, dit-il, les athées dans la disposition de leur cœur, on trouve que, n'étant ni retenus par la crainte d'aucun châtiment divin, ni animés par l'espérance d'aucune bénédiction céleste, ils doivent s'abandonner à tout ce qui flatte leur passion. C'est tout ce que nous pouvons en dire, n'ayant point les annales d'aucune nation athée. Et plus loin, n'en déplaise à Cardan, une société d'athées, incapable qu'elle serait de se servir des motifs de religion pour se donner du courage, serait bien plus facile à dissiper qu'une société de gens qui servent des dieux. Et quoique Cardan ait quelque raison de dire que la croyance de l'immortalité de l'âme a causé de grands désordres dans le monde par les guerres de religion qu'elle a suscitées de tout temps, il est faux, même à ne regarder les choses que par des vertus de politique, qu'elle ait apporté plus de mal que de bien, comme il le voudrait faire à croire. Que voulait donc Bayle? Il voulait uniquement dire à ses contemporains « J'aimerais mieux un peuple d'athées que des fanatiques comme vous. J'aimerais mieux des gens sans aucune religion que des hommes qui brûlent leurs adversaires, comme François Ier ou Calvin, qui assassinent un peuple entier, comme on fit à la Saint-Barthélemy, qui ordonnent des dragonnades ou qui chassent de la patrie commune 200 000 de leurs frères, comme Louis XIV. » Voilà les horreurs qui révoltaient l'âme de Bayle, et c'est contre elles que son esprit organisait ses paradoxes. S'il avait admis la nécessité d'une religion pour un État, il lui eût semblé que toutes les conséquences qui le faisaient frémir venaient nécessairement à la suite d'une pareille concession. L'idée que la liberté de conscience, la liberté de penser, la liberté d'écrire, la liberté pour chacun de rendre à Dieu tel culte intérieur et individuel que nous voulons, puisse s'accorder avec une religion collective et un culte national, n'avait pas même encore germé dans le monde. C'est à peine aujourd'hui si on comprend cette possibilité. Et en effet, une telle liberté individuelle était incompatible avec le christianisme. Les papes l'avaient bien montré par l'Inquisition, les protestants eux-mêmes l'avaient également montré par leurs atroces persécutions de Genève, d'Angleterre et de Hollande. Tant donc que religion et christianisme seraient la même idée, tant que la religion consisterait à croire à une foule de points auxquels l'esprit humain ne pouvait plus croire, tant que nier ces points incroyables serait une rébellion contre la société et une action aussi damnable aux yeux de la loi civile qu'au regard de la loi religieuse, il était évident que concéder la nécessité d'une religion dans un État, c'était concéder toutes les persécutions et toutes les fureurs réciproques des sectes religieuses qui, depuis 200 ans, se battaient et s'égorgeaient en Europe. Bayle ne voulut pas faire cette concession. Il soutint donc que la religion n'a aucune influence sur les actions des hommes, que les hommes n'agissent pas selon leurs principes, qu'ils se conduisent uniquement d'après certaines passions qui règnent constamment dans tous les pays et dans tous les siècles, que l'ambition, l'avarice, l'envie, le désir de se venger, l'impudicité et tous les crimes qui peuvent satisfaire ces passions se voient partout, que le juif et le mahométan, le turc et le maure, le chrétien et l'infidèle, l'indien et le tartare, l'habitant de la terre ferme et l'habitant des îles, toutes ces sortes de gens, qui dans le reste ne conviennent, pour ainsi dire, que dans la notion générale d'homme, sont si semblables à l'égard de ses passions que l'on dirait qu'ils se copient les uns les autres. Il soutint enfin que le véritable principe des actions des hommes n'est autre chose que le tempérament, l'inclination naturelle pour le plaisir, le goût que l'on contracte pour certains objets, le désir de plaire à quelqu'un, une habitude gagnée par le commerce de ses amis, ou quelque autre disposition qui résulte du fond de notre nature en quelque pays que l'on naisse et de quelque connaissance que l'on nous remplisse l'esprit. La religion étant aussi peu nécessaire et aussi peu efficace pour nous diriger dans la vie, il ne restait d'elle aucun bien, il ne restait que le mal. Elle servait uniquement à diviser les hommes, à les armer les uns contre les autres, et c'est ainsi que Bayle préférait, disait-il, un peuple d'athées à un peuple de croyants. Voilà comment, pour établir la paix et la tolérance, Bayle fut conduit à ce paradoxe, si souvent répété après lui, que la religion n'était pas nécessaire aux sociétés humaines, qu'elle ne changeait pas le cœur de l'homme, et par conséquent ne pouvait faire aucun bien, mais qu'elle avait souvent fait beaucoup de mal. Montesquieu a essayé de réfuter les sophismes de Bayle. Voici ce qu'il en dit. Bayle a prétendu prouver qu'il valait mieux être athée qu'idolâtre, c'est-à-dire, en d'autres termes, qu'il est moins dangereux de n'avoir point du tout de religion que d'en avoir une mauvaise. « J'aimerais mieux, dit-il, que l'on dit de moi que je n'existe pas, que si l'on disait que je suis un méchant homme. » Ce n'est qu'un sophisme, fondé sur ce qu'il n'est d'aucune utilité au genre humain, que l'on croit qu'un certain homme existe, au lieu qu'il est très utile que l'on croit que Dieu est. De l'idée qu'il n'est pas suit l'idée de notre indépendance, ou, si nous ne pouvons pas avoir cette idée, celle de notre révolte. Dire que la religion n'est pas un motif réprimant parce qu'elle ne réprime pas toujours, c'est dire que les lois civiles ne sont pas un motif réprimant non plus. C'est mal raisonner contre la religion de rassembler dans un grand ouvrage une longue énumération des maux qu'elle a produits, si l'on ne fait de même celle des biens qu'elle a faits. Si je voulais raconter tous les maux qu'ont produits dans le monde les lois civiles, la monarchie, le gouvernement républicain, je dirais des choses effroyables. Quand il serait inutile que les sujets eussent une religion, il ne le serait pas que les princes en eussent, et qu'ils blanchissent d'écume le seul frein que ceux qui ne craignent pas les lois humaines puissent avoir. Un prince qui aime la religion et qui la craint est un lion qui cède à la main qui le flatte ou à la voix qui l'apaise. Celui qui craint la religion et qui la hait est comme les bêtes sauvages qui mordent la chaîne qui les empêche de se jeter sur ceux qui passent. Celui qui n'a pas du tout de religion est cet animal terrible qui ne sent sa liberté que lorsqu'il déchire et qu'il dévore. La question n'est pas de savoir s'il vaudrait mieux qu'un certain homme ou qu'un certain peuple n'eût point de religion que d'abuser de celle qu'il a, mais de savoir quel est le moindre mal, que l'on abuse quelquefois de la religion, ou qu'il n'y en ait pas du tout parmi les hommes. Voilà de belles paroles, sans doute, et pleines de majesté, mais j'avoue que cette réfutation ne me satisfait guère. Ne sentez-vous pas, en effet, au fond de toutes ces paroles, que Montesquieu est lui-même atteint du même mal que Bayle, l'incrédulité. Car comment défend-il l'idée que la religion est nécessaire? Par l'argument de son utilité, et encore, combien cette utilité à ses yeux est restreinte. La religion, pour Montesquieu, comme pour Bayle, est tout à fait en dehors des lois civiles. Il y a les lois civiles d'un côté et la religion de l'autre, deux domaines complètement séparés et n'ayant entre eux nul rapport. La différence est que Bayle soutient que les lois civiles suffisent, ou qu'elles doivent se suffire à elles-mêmes, tandis que Montesquieu appelle la religion au secours des lois civiles. Mais ce n'est qu'un appui extérieur qu'il demande à la religion. Il la reconnaît d'une utile assistance, et voilà tout. Il est très utile, dit-il, que l'on croit que Dieu est, car de l'idée qu'il n'est pas, suit l'idée de notre indépendance, ou de notre révolte. Ainsi la religion sert à Montesquieu à enchaîner les hommes à l'obéissance des lois. Voilà le service principal qu'il en attend. Si les hommes n'avaient aucune religion, ils se révolteraient, ils risqueraient d'être ingouvernables. Il est donc bon qu'ils en aient. C'est ainsi que Voltaire, au même temps, se laissait aller à écrire. Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Montesquieu soutient donc, contre Bayle, que la religion prête main forte aux lois, en accoutumant le genre humain à l'obéissance, à la subordination, à la dépendance. Mais il soutient aussi qu'elle sert également à contenir dans de certaines bornes les rois et tous ceux que les lois civiles ne pourraient pas aisément atteindre. Sous ce rapport, il trouve que la religion est encore d'une utile assistance pour la législation. Il est, dit-il, très utile que les princes aient de la religion, et il fait là-dessus de magnifiques figures. Enfin, il soutient que si les religions ont produit de grands maux, elles ont aussi produit de grands biens, et il veut qu'on oppose les uns aux autres pour pouvoir porter un jugement équitable. Voilà toute son apologie. Combien cette apologie est incomplète et insuffisante. Si la religion, en effet, n'est qu'utile, il ne s'ensuit en aucune façon qu'elle soit nécessaire. Et si elle n'est pas nécessaire, mais seulement utile, il est évident que, du moment où le problème traité par Bayle et Montesquieu a été posé, toute religion doit disparaître de la terre. Car on n'ira pas, certes, croire en Dieu parce qu'il est utile d'y croire. On ne se fera pas une foi religieuse uniquement pour se rendre plus souple au joug des lois civiles. Et les princes n'embrasseront pas complaisamment une croyance afin de n'être pas des tigres démuselés. Et les hommes sages chercheront à museler ces mêmes princes autrement qu'en se chargeant eux-mêmes d'erreurs et de superstitions. Voilà la seule conséquence de l'apologie que Montesquieu fait de la religion, conséquence directement contraire au but qu'il se propose. Il me semble que ni Bayle ni Montesquieu n'ont compris la question à fond. Il ne s'agit pas de savoir si la religion est utile ou non, si les religions diverses qui se sont succédées sur la terre ont été plus fécondes en mots qu'en biens, ou réciproquement. Il s'agit de savoir si la religion est ou n'est pas nécessaire, si l'homme peut vivre sans religion, si par conséquent un peuple quelconque peut subsister sans religion. Si l'on voulait décider cette question par l'histoire, ce serait trop facile. Nous n'avons, comme dit Bayle, les annales d'aucune nation athée, et même lorsqu'une nation a passé momentanément par une sorte d'athéisme pareil à celui où nous sommes maintenant, on l'a toujours vu conserver un respect de convention pour son culte antérieur, signe évident que la religion est nécessaire. À l'origine, chez tous les peuples du monde, nous trouvons la législation si intimement unie à la religion qu'elle semble en être uniquement un corollaire et en dépendre. Partout, les lois civiles sont nées et ont grandi au sein des dogmes religieux. Tous les anciens codes commencent par des dogmes de ce genre. Tous les peuples ont débuté dans leur législation, comme le poète dans ses chants. Abiove principium. Cela est trop évident pour l'Inde, dont le code s'ouvre par une genèse et embrasse à la fois les devoirs religieux, les devoirs de famille et les devoirs particuliers des différentes castes sous le rapport civil et politique. Il est trop connu que tout, chez les Indiens, dérive directement de la métaphysique religieuse contenue dans les Védas. La législation n'est chez ce peuple qu'une conséquence des idées qui y règnent sur la divinité et la vie éternelle. Cela est encore trop évident de l'Égypte, où la religion était si intimement unie au gouvernement qu'on a appelé ce gouvernement une théocratie, quoiqu'il y eût là, comme dans l'Inde, des rois et une caste militaire distincte de la caste sacerdotale. Nous retrouvons la même intimité de la religion et des lois chez les Chaldéens et les Perses. Nous la retrouvons chez les Celtes et les Gaulois. La même chose est certaine des Grecs, qui, suivant toutes les traditions, ont été primitivement civilisés par le moyen d'institutions religieuses. Il en est encore de même chez des Romains, qui font de leur numa un législateur à la fois religieux et politique. La Bible est un monument si connu qu'il est inutile de parler des Juifs. Ce que Moïse avait fait pour une partie de la race arabe, Mahomet l'a recommencé, après bien des siècles, pour une autre partie de cette race. La loi religieuse, chez les Mahométans, a engendré tout le code civil. Enfin, notre Occident lui-même, où pour la première fois dans le monde, on a essayé de mettre en avant, d'une manière nette et radicale, la distinction de la loi civile et de la loi religieuse, notre Occident n'a-t-il pas emprunté, sinon toutes ses lois, du moins une grande partie de ses lois, et en général l'inspiration et la consécration de ses lois aux dogmes du christianisme? Après l'invasion barbare, le droit canonique n'a-t-il pas été le droit prédominant en Europe? Et lors même qu'à la Renaissance, l'ancien droit romain est venu prêter son appui aux laïcs contre le clergé, les prémices posées par le christianisme n'ont-elles pas toujours prédominé dans la législation et n'ont-elles pas servi à modifier et à diriger les applications qu'on a faites de ces lois? Partout donc, et sans aucune exception, le droit a été religieux, empreint d'une foi religieuse, dominé par une croyance supérieure aux questions mêmes du droit. Je ne vois à cette règle aucune exception. C'est en vain que Voltaire a cherché d'un œil curieux s'il ne pourrait pas découvrir quelques traces d'une législation primitive d'où la divinité fut absente. Après avoir bien cherché, le grand incrédule crut un jour avoir trouvé une exception, et il exalta au-dessus de Moïse, de Jésus et de tous les législateurs deux disciples de Pythagore, Charondas, qui rédigea des lois pour une cité grecque d'Italie, et Zaleucus, le législateur des Locriens. Ceux-là, dit-il, ceux-là du moins, ne se sont pas donnés comme des inspirés, comme des révélateurs. Ils se sont contentés de parler au nom de la raison. Il est bien vrai que Charondas et Zaleucus ne se sont pas donnés pour des révélateurs, mais ils n'en ont pas moins légiféré au nom de Dieu, ils n'en ont pas moins donné pour base à la législation, la religion. Stobée nous a conservé le préambule des lois de Charondas et celui des lois de Zaleucus. L'un commence ainsi, « Invoquez l'être suprême avant de délibérer et d'agir. C'est Dieu qui est la cause première de tout bien. Évitez l'injustice afin d'être en harmonie avec Dieu. » La déclaration de Zaleucus est plus explicite encore. Tous ceux qui habitent la ville et le pays doivent reconnaître l'existence des dieux. La vue du ciel et de l'univers, l'ordre admirable de la nature, indique la présence du grand être qui les a organisés. Le monde n'est pas l'ouvrage de l'homme et encore moins du hasard. Puisqu'il y a des dieux, il faut les adorer et les honorer comme les auteurs de tous les biens qui nous arrivent. Il suit de là que chacun doit veiller pour conserver son âme pure et sans tache, car l'être suprême n'est point honoré par la prière du méchant. L'homme qui veut être chéri des dieux s'efforcera donc d'être bon en pensée et en action, etc. Que Voltaire conclut, de ces deux exemples, qu'une législation peut avoir prise sur les hommes, indépendamment de toute imposture ou de toute illusion à la bonne heure. L'exemple du confucianisme à la Chine prouve également cette vérité. Ces trois exemples démontrent incontestablement qu'une religion peut exister et faire son œuvre civilisatrice indépendamment de l'idée d'une révélation spéciale. Mais c'est une grande erreur de ne pas voir là de religion parce qu'il n'y a pas de révélateur, parce que le législateur ne se dit pas inspiré autrement que tous les autres hommes, parce qu'il ne prétend pas qu'un ange ou Dieu lui a parlé, et parce qu'on ne raconte pas de lui des miracles. Ce que je trouve au contraire de plus beau dans ces exemples de Confucius, de Zaleucus et de Charondas, c'est que les institutions de ces législateurs ont été des religions au même titre que les autres religions. C'est qu'elles prouvent qu'une religion peut exister et servir de base à une législation, indépendamment de l'erreur commune qui a fait considérer, comme des émanations divines, comme des présents miraculeux du ciel, la religion des Védas ou celle de la Bible, de l'Évangile ou du Coran. En résumé donc, on ne trouve aucune société importante qui ait été jusqu'ici sans religion et sans culte. On a parlé quelquefois de peuples chez lesquels les voyageurs n'avaient découvert aucune marque extérieure de religion, mais d'abord, il faut remarquer que cela se réduit à 5 ou 6 peuplades, tant de l'Ancien que du Nouveau Monde, lesquelles ne formaient point de sociétés nombreuses ni étendues. Ensuite, les rapports mêmes des voyageurs qui en parlent sont fort incertains, et il est probable qu'ils ont mal observé. D'ailleurs, que signifient quelques sauvages mis en parallèle avec le genre humain? Les nations les moins civilisées ont un culte grossier, mais elles ont un culte. Partout où l'islamisme n'a pas pénétré en Afrique, on a trouvé le fétichisme. Quand on a découvert l'Amérique, on a trouvé des religions. Enfin, dans quelque temps et dans quelques pays qu'on se transporte, on y trouve des autels, des sacrifices, des fêtes, des cérémonies religieuses, des prêtres, des temples, ou des lieux consacrés publiquement et solennellement à la divinité. Ce sont des superstitions, direz-vous. Qu'importe. Je vous dis que l'homme a un besoin naturel de religion et de culte, et qu'il est religieux par nature, comme il est raisonnable et sociable par nature, ou plutôt encore, qu'il est religieux parce qu'il est raisonnable, et je suis sûr que telle est la nature de l'homme, puisque partout où une société s'est trouvée, une religion s'est aussi trouvée. L'erreur des cultes divers ne fait rien ici. Toutes les législations humaines n'ont-elles pas été erronées, imparfaites, et jusqu'à un certain point grossières? Mais elles prouvent le besoin des lois. Et de même, les superstitions et les idolâtries prouvent le besoin naturel à l'homme de religion et de culte. Il y a une seconde manière de se convaincre de cette vérité. C'est de se demander, indépendamment des leçons de l'histoire et de la géographie, si l'on peut concevoir comment l'idée de la justice et du droit se serait établie parmi les hommes sans l'idée religieuse, et comment elle s'y maintiendrait sans cette même idée. En faisant ce raisonnement, on arrive à l'instant même à reconnaître, non pas seulement, comme Montesquieu, que la religion a été et est utile pour l'établissement et le maintien des lois civiles, mais comme Cicéron, que la religion a été et est nécessaire pour engendrer et maintenir le droit parmi les hommes. Ôter la piété, la sainteté, la religion, dit ce grand homme, quelle perturbation de la vie, quelle confusion, quel chaos. En vérité, je ne sais si la piété envers la divinité enlevée, il peut subsister parmi les hommes quelque bonne foi, si toute société n'est pas détruite, et s'il reste aucun principe à la justice, la plus excellente de toutes les vertus. Ailleurs, il nous apprend que c'était le sentiment des platoniciens, des stoïciens et de tous les sages de l'Antiquité que la loi n'a point été une invention de l'esprit humain, ni un règlement établi par les différents peuples, mais quelque chose d'éternel, c'est-à-dire une manifestation de la sagesse de Dieu dans le gouvernement du monde. Que la loi ainsi conçue est non seulement aussi ancienne que tout peuple et que le genre humain lui-même, mais qu'elle est co-éternelle au Dieu qui gouverne le ciel et la terre. Qu'elle n'a pas commencé à être une loi quand on l'a écrite, mais qu'elle était loi dès sa naissance, et qu'elle a pris naissance avec la pensée divine. En un mot, que la loi véritable, la loi qui légitimement ordonne et défend, n'est autre que la droite raison du grand Jupiter. S'il faut ainsi remonter à la raison divine pour trouver un fondement à la loi, si les recherches sur l'origine et la nature du droit parmi les hommes entraînent nécessairement à chercher la sanction de ce droit dans la volonté souveraine qui gouverne le monde, comment échapper à la nécessité de la religion? Loin que le droit puisse se passer de la religion, il se trouve en dépendre de toute manière, puisque la connaissance des modifications que le droit humain doit successivement subir n'est que l'image et le reflet successif des formes diverses que la sagesse de Dieu veut faire régner sur terre. Voilà 18 siècles que Cicéron résumait, dans les termes que nous venons de citer, les opinions des platoniciens, des stoïciens et de tous les sages de l'Antiquité, les épicuriens seuls exceptés, sur la nature et l'origine du droit. N'est-ce pas encore de la même façon qu'il faudrait résumer aujourd'hui tout ce qu'ont pensé les philosophes modernes qui ont le plus profondément réfléchi sur cette matière? Ôtez les épicuriens modernes, supprimez Hobbes, Machiavel, Helvétius et Bentham. Quel est le philosophe depuis 18 siècles qui n'a pas fait sortir le droit de la connaissance de Dieu, les uns s'élevant seulement à l'idée métaphysique du juste, les autres joignant à cette idée celle d'un gouvernement du monde par la divine providence? Demandez à Leibniz ce que c'est que le droit, il vous répondra que, Si l'on veut donner une idée pleine de la justice humaine, il faut la tirer de la justice divine comme de sa source. Interrogez Vico, il vous dira que la jurisprudence est la connaissance des choses divines et humaines, et qu'il a fait tous ses efforts pour tirer les principes de la jurisprudence de la véritable connaissance de la nature humaine, laquelle a son origine dans le vrai Dieu. Est-ce que le droit, dans Grotius même, n'est pas considéré comme la réalisation de la vraie religion, c'est-à-dire du christianisme, comme l'entendait Grotius? Enfin, si Hobbes, Hume et Jérémie Bentham ont plaidé, d'une manière nouvelle, la cause de l'instabilité de la morale et soutenu la théorie de la convention en matière de droit, n'ont-ils pas trouvé des esprits plus vigoureux et plus sains pour leur répondre? N'ont-ils pas suscité Ecudworth et Richard Price et Kant? Trouvez donc maintenant, comme dit Cicéron, un principe à la justice si vous ôtez la religion.